je regrette d'avoir proposé à Vinciane de parler avant moi, parce que c'est très difficile de parler après elle maintenant. Je vais partir de la notion d'habitabilité, qui est dans l'intitulé de ta chaire, dans la chaire d'Anastasia. La mention la plus ancienne que j'ai trouvée du terme, c'est dans une lettre que Alexandre de Humboldt écrivait à son ami Schiller, et dans laquelle il définissait son entreprise, qui est au fond, Humboldt est l'inventeur de la géographie humaine et de l'écologie humaine. Il définissait son entreprise comme l'étude de l'habitabilité progressive de la Terre. Donc, dans une perspective évidemment très anthropocentrée, comment est-ce que les humains ont progressivement plié les milieux et les autres qu'humains à leurs besoins, à leurs nécessités, en les transformant en ressources. Et la question qui se pose maintenant, un peu plus de deux siècles après, c'était à la fin du XVIIIe siècle, après cette définition que Humboldt donnait de sa tâche, la question qui se pose, c'est comment avons-nous fait pour rendre la Terre de moins en moins habitable ? Qu'est-ce qu'on a raté ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est une question qui, évidemment, est de la plus grande urgence. Et pour y répondre, vous me direz, en quoi êtes-vous qualifié comme anthropologue ? Vous n'êtes même pas historien. Alors, je voudrais dire quelques mots des raisons pour lesquelles la question m'intéresse et pour laquelle les anthropologues peuvent contribuer quelque chose à essayer de répondre à cette question. La réponse, en général, que l'on donne, c'est effectivement l'anthropocène, c'est-à-dire une situation dans laquelle l'humanité est devenue une force naturelle, dans laquelle on ne peut plus donc distinguer les faits naturels des faits culturels. Mais l'expression anthropocène me gêne, parce que comme anthropologue précisément qui a, comme Anastasia, étudié au fil des années la façon dont des populations autochtones un peu partout non pas s'adaptaient, mais transformaient leur milieu, l'aménageaient et quelquefois le façonnaient profondément. Je rappelle que la forêt amazonienne est en partie anthropogénique, c'est-à-dire qu'elle est le produit des façons culturales des populations autochtones qui, du fait de l'horticulture sur brûlis, ont profondément transformé la forêt, en ce sens que chaque fois qu'on fait un nouveau jardin dans la forêt, donc on fait un essart, une clairière, on plante des plantes cultivées qui sont cultivées depuis 8000 ans à peu près, pour les principales, on transplante aussi des plantes sauvages dans les jardins qui sont en général des palmiers ou des arbres fruitiers. Et lorsque le jardin est abandonné, au bout de quelques années, les plantes sauvages vont beaucoup mieux résister à la végétation de recrue que les plantes domestiquées qui vont disparaître rapidement. Et si on imagine ce processus se répétant au fil des millénaires, ça veut dire que la composition floristique de l'Amazonie a été profondément bouleversée par ces façons culturelles et qu'à taux de diversité égal dans des zones où il semble qu'il n'y ait jamais eu d'humains, il y en a très peu en Amazonie, les zones qui sont fréquentées par des humains depuis très longtemps sont des zones où il y a également une très grande biodiversité, mais une très grande biodiversité utile à l'homme. Donc, cette anthropisation, elle est très ancienne. Elle a touché à peu près tous les écosystèmes sur la Terre, y compris parmi les populations de chasseurs-cueilleurs en Australie, avec les feux de brousse et des choses comme ça. Donc, c'est l'homme, effectivement, avec un grand H, a transformé la Terre au fil du temps, mais il ne l'a pas dévastée. Ce qu'il a dévasté, c'est un système. Et ce système, il faut le noter, il a un nom, c'est le capitalisme industriel, et c'est pour ça que je préfère parler de capitalocène que d'anthropocène. Alors, si on veut essayer de réfléchir à une Terre qui soit qui ne perdent pas de son habitabilité, mais qui au contraire gagnent en habitabilité, non seulement pour les humains, mais aussi pour les autres qu'humains, c'est-à-dire dans lesquels les humains ne se soient plus les maîtres de la nature, il faut réfléchir aux conditions dans lesquelles le capitalisme industriel s'est développé. Alors, on connaît les conditions historiques. Je ne vais pas revenir sur ces conditions. Il s'est passé que au XVIIIe siècle, un marché concurrentiel libre et formateur de prix a inclus pour la première fois dans l'histoire le travail et la terre, qui sont devenus donc des marchandises aliénables, formant ainsi les prémices, les prodromes du capitalisme qu'on pourrait définir au fond comme le capitalisme, c'est quoi ? C'est tout ce qui, c'est tout transformé en marchandises. Donc, et la terre, le travail humain, les connaissances, un processus qui a pris pas mal de temps et qui s'est accéléré donc à partir du XVIIIe siècle, en partie lié au colonialisme, qui a permis à des pays comme l'Angleterre, qui avait une faible superficie, d'utiliser les hectares fantômes dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'espace colonial. Pomerance a montré à quel point, par exemple, la Chine, dans sa consommation qui était à peu près au même niveau de production que le Royaume-Uni au début du XVIIIe siècle, a connu des crises du fait de la surconsommation de bois nécessaire à son industrialisation et à sa proto-industrialisation. Et évidemment, les ressources que l'Angleterre a pu mobiliser, elle les a mobilisées ailleurs que chez elle, dans les colonies nord-américaines, et ce qui a permis ces hectares fantômes, justement, en partie le démarrage industriel. La colonisation du Bengale a joué un rôle aussi important, avant que la jacinthe d'eau vienne bouleverser les conditions de la culture du riz. La monopolisation de la production du Bengale, l'imposition de produits manufacturés et le recrutement d'autochtones dans l'armée britannique en masse, lui permettant d'étendre ses conquêtes vers l'Est, ont été des facteurs absolument fondamentaux. Donc il y a plusieurs conditions historiques de ce type-là que les historiens ont étudiées tout particulièrement ces dernières années et qui ont abouti à la mise en place du capitalisme industriel au début à des périodes différentes, là, en premier lieu au Royaume-Uni, tout à fait à la fin du 19e, du 18e siècle. Et ce qui s'est passé, c'est que ce grand mouvement a été rendu possible aussi par une révolution anthropologique. Et c'est là que les anthropologues pointent le bout de leur nez. Cette révolution anthropologique, c'est au XVIIe siècle l'apparition, l'émergence, d'abord dans les élites, d'une nouvelle façon de concevoir les rapports entre les êtres et les choses et de composer un monde, au fond, que j'ai appelé le naturalisme. C'est un terme qui a fini par faire florès parce qu'on l'utilise maintenant de façon quotidienne, alors qu'il signifiait une doctrine philosophique auparavant ou une doctrine littéraire. Et ce naturalisme, il se définit pour l'essentiel de deux façons. Les humains sont une espèce, un type d'être exceptionnel du fait de leurs facultés cognitives et morales, d'une part, et les autres qu'humains deviennent la nature, c'est-à-dire des êtres qui n'ont pas ces capacités morales et cognitives et qui sont donc des choses et en tant que telles appropriables et utilisables à merci. Donc c'est une révolution profonde qui tranche sur l'ontologie médiévale. Alors je parle beaucoup d'ontologie. Ontologie, c'est simplement le mobilier du monde, hein, c'est-à-dire de quoi le monde est-il composé en termes d'être et de relations pour un individu quelconque qui partage, du fait de sa socialisation et de son éducation, la même capacité à percevoir dans ce qui l'environne un mobilier du monde identique. Donc les ontologies ne sont pas des cultures, ce sont des dispositifs de filtrage qui permettent de détecter dans la complexité des êtres et des phénomènes qui nous environnent certains d'entre eux qui sont pertinents pour notre vie, qui nous paraissent fondamentales de mettre en lumière. Et c'est, ce mobilier donc va varier en fonction des dispositifs de filtrage qu'on a pu acquérir dans le cadre de notre éducation, notre socialisation dans un milieu physique et social. Qu'est-ce qui se passe au XVIIe siècle? C'est que par rapport à la période médiévale, dans l'ontologie médiévale, le monde est organisé pour l'essentiel sous la forme d'une hiérarchie d'êtres, qu'on appelle la chaîne de l'être, qui va depuis Dieu jusqu'aux créatures les plus humbles. Et à l'intérieur de cela, il y a des blocs, mais qui ne sont pas des blocs nettement dessinés. Bien sûr, il y a les humains qui forment un ensemble. Il y a un ensemble assez prépondérant dans le christianisme, mais néanmoins qui n'est pas séparé de tout le reste. Et à l'intérieur de cette hiérarchie d'attributs et de qualités, il y a toutes sortes de sous-catégories. La théorie aristotélicienne des âmes, par exemple, qui est en vigueur jusqu'au début du XVIIe siècle, accorde aux animaux, par exemple, aux plantes, à certains organismes, des capacités qui ne sont pas tout à fait identiques à celles des humains, mais qui supposent une gradation, en somme, dans les facultés cognitives. Et ce système-là va s'effondrer, encore une fois, chez les savants, dans les élites au XVIIe siècle, pour donner lieu à ce que j'ai appelé le naturalisme. J'ai été rendu attentif à cela par mon expérience d'anthropologue, par mon expérience d'ethnographe sur le terrain, lorsque, parti étudier en Haute-Amazonie une société qui était restée longtemps à l'écart, disons, des mouvements historiques, parce qu'elle avait réussi à se protéger contre les tentatives d'invasion, de spoliation, etc. C'est une société guerrière. J'étais parti étudier les rapports que cette société entretenait avec son milieu. Et je me suis rapidement aperçu que ces rapports n'étaient pas du même ordre que ceux que j'avais conceptualisés au départ lorsque je m'étais intéressé à cet objet d'étude, à savoir les rapports entre une société et la nature, puisque d'une part la nature n'existait pas en ce sens que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle était le produit d'un travail de transformation qui n'était pas consciemment mené, mais dont les effets étaient perçus par cette population, et que d'autre part les autres qu'humains, les plantes, les animaux, étaient pour l'essentiel considérés comme des personnes. Le terme qui est employé localement, Aens, et qu'on pouvait traduire par personne, c'est tout être doté d'une subjectivité, d'une capacité de communiquer, Et les plantes et les animaux, les esprits aussi, faisaient partie de cet ensemble. Et donc, cette façon de composer le monde, d'y voir, d'y discerner en quelque sorte un mobilier qui était très différente de celle que j'amenais avec moi comme jeune chercheur formé à la philosophie en plus européen, et ça m'a paru contrasté de façon très nette avec le monde d'où je venais. Et ce détour, ce que Lévi-Strauss appelle le regard éloigné, c'est ce qui permet, lorsqu'on va très loin, au fond, de découvrir des choses, non pas sur les, en partie sur les gens qu'on va visiter très loin, mais aussi sur la culture d'où vous provenez, parce que vous vous mettez dans une situation d'écart vis-à-vis de cette culture et vous la regardez de façon critique, réflexive. Ce que, en principe, les philosophes font, c'est le travail de la philosophie depuis Platon, hein, de s'étonner devant les évidences du sens commun. Mais lorsqu'on fait un détour par une civilisation lointaine et qu'on regarde sa propre civilisation avec les yeux, le regard qui s'est progressivement formé à travers la fréquentation d'une autre civilisation, tout d'un coup, elle vous apparaît avec... de façon beaucoup plus nette, et notamment ses défauts, ses iniquités, ses injustices vous sautent au visage. C'était en particulier ce qui m'est arrivé. Je crois que c'est le cas de beaucoup d'anthropologues lorsqu'ils reviennent du terrain. L'expérience du retour du terrain est l'expérience la plus difficile qui soit à cause de ça, justement, parce que tout d'un coup, même si on n'avait pas d'illusions avant de partir, les défauts de votre propre société vous apparaissent tout d'un coup avec une brutalité sans nom lorsque vous revenez chez vous. Et donc, ce que j'appelle le naturalisme, il a pris sens pour moi à partir de ce que j'avais observé chez les Achuars et à partir du travail comparatif que j'ai mené ensuite pour essayer de comprendre... à partir de la littérature ethnographique, historique, comment, ailleurs dans le monde et à d'autres époques, on avait conçu les rapports de continuité, de discontinuité entre humains et non-humains. Et je me suis aperçu, à travers ce travail livresque, fondé sur la consultation des documents, que notre façon de faire, nous, à nous, européens, modernes, et quand je dis modernes, les modernes, ce sont les gens qui croient à l'existence de la nature, était quelque chose d'absolument exceptionnel et de très exotique, donc, par rapport au reste du monde. Alors, évidemment, cette façon de voir s'est répandue progressivement avec le colonialisme, d'une part, avec la globalisation des échanges, mais de très nombreuses populations autochtones dans le monde continuent à composer des mondes ou à faire monde d'une façon qui est très différente de la nôtre. Donc le détour par un terrain lointain m'a convaincu du caractère à la fois exceptionnel du naturalisme et aussi... La lecture des économistes, des philosophes, des historiens m'a convaincu que le naturalisme constituait une révolution anthropologique fondamentale permettant, c'est pas la seule explication possible, mais permettant de rendre compte en partie du fait que le capitalisme industriel s'est développé. Donc c'est l'une des conditions, c'est pas la seule, mais c'est l'une des conditions du développement du capitalisme industriel. Alors, la question posée ainsi, ou le constat fait ainsi, aboutit nécessairement à la question, la fameuse question de Lénine, que faire ? Et cette question, je pense qu'on peut y répondre en essayant d'imaginer quelles sont les conditions qui ont rendu cette révolution anthropologique du naturalisme possible, et d'essayer d'inverser ces conditions, ou en tout cas, non pas pour revenir à une ontologie médiévale, mais pour moduler, au fond, les circonstances qui ont rendu l'émergence du naturalisme possible. Ce n'est pas la seule condition pour faire disparaître la dévastation de la planète que le capitalisme industriel engendre. Il y a d'autres conditions, mais il me semble que l'échec des révolutions communistes, léninistes au cours du XXe siècle montre assez bien que si on ne réforme pas le substrat, et ce qu'aucune des révolutions communistes du XXe siècle n'a fait, si on ne révolutionne pas le substrat du naturalisme, on n'aboutira pas, on ne pourra pas aboutir à se débarrasser du capitalisme industriel. Alors, il me semble que un premier pas consiste, et ça m'a été souvent reproché d'ailleurs, non pas nécessairement à ne plus jamais parler de la nature, mais en tout cas à employer ce terme avec beaucoup de précaution. Parce qu'à partir du moment où on parle de la nature, on présuppose l'existence de cette entité extérieure, qu'il s'agit soit d'utiliser au profit des humains, soit, lorsqu'on a vraiment merdé, à la protéger dans des espaces bien délimités, puisque évidemment une protection générale de la nature aboutirait à rendre impossible son exploitation comme ressource. Donc, si je comprends bien que le terme de nature possède une dimension métaphysique, poétique, affective importante, et qu'elle permet encore de mobiliser des militants dans des entreprises de lutte contre la destruction des milieux, continuer à parler de nature est néanmoins, me semble-t-il, problématique. Mais ce n'est pas uniquement une question sémantique. Je ne pense pas que c'est en arrêtant de parler de nature qu'on va changer quelque chose. Il me semble que, puisque le naturalisme a eu comme effet de désubjectiver les non-humains, et Vinciane nous a donné des exemples merveilleux de la façon dont l'éthologie permet de resubjectiver les autres qu'humains, les animaux, l'éthologie au cours des... C'est fascinant, au cours des 30 dernières années, a complètement aboli cette frontière qui était, qu'on pensait intangible encore jusque dans les années 60, entre les animaux humains et les animaux non humains, du point de vue des facultés cognitives, du point de vue des capacités techniques, du point de vue des formes d'organisation sociale, du point de vue même des formes de communication qui ressemblent de plus en plus à des langages maintenant, puisqu'ils sont adressés à des interlocuteurs particuliers, etc. Il y a une révolution profonde qui peu à peu peut-être commence à être perçue par la majorité de nos concitoyens, mais qui n'aboutit pas encore à des conséquences politiques. Donc, resubjectiver les non-humains, ça peut prendre différentes formes. Les traiter comme des alter-ego au sens comme des personnes, mais en conservant, c'est quelque chose dont on parlait tout à l'heure, en conservant leur altérité. Du fait que l'idée de nature, justement, a mis en avant ce paradoxe que, alors que les humains se séparent du reste des autres qu'humains par leurs facultés cognitives et morales, ils partagent avec ces autres qu'humains une longue histoire évolutive et des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques qui ne les rendent pas complètement différents comme être organisés des animaux non humains. Cela dit, les différences persistent et ces différences, je crois qu'elles sont à la manière de ce que j'ai pu observer en Amazonie, que j'appellerais donc la manière animiste, fondée sur des capacités physiques qui leur permettent d'actualiser des mondes différents. Le monde que les humains façonnent, fabriquent et objectivent, ils le font du fait de certaines de leurs capacités biologiques, physiques, cognitives, et chaque espèce animale ou chaque forme de vie va le faire aussi à sa façon propre. Et ça, c'est une découverte que les animistes ont faite avant Jacob von Uexküll, c'est-à-dire que il y a autant de mondes possibles qu'il y a de façons d'objectiver ces mondes en fonction des dispositions biologiques d'une forme de vie. Quand je parle de forme de vie, c'est pour éviter de parler d'espèce au sens de la biologie. Bogoras disait des Tchouktch en Sibérie orientale. Pour les Tchouktch, les ombres sur le mur vivent dans des villages où elles subsistent en chassant. C'est-à-dire que chaque forme de vie, y compris celle du nombre porté, peut être vue comme ayant une existence autonome du fait de ses dispositions propres. Même si les Tchouks ne savent très bien ce que c'est qu'une ombre portée et ne confondent pas une ombre portée avec un renne ou un ours. Mais néanmoins, cette idée de la multiplication des manières de faire monde du fait des dispositions physiques me paraît intéressante. C'est une des choses à retenir possiblement de l'animisme, parce que ça permet de nous relier à des formes de vie précisément en acceptant leur altérité profonde et le fait qu'elles partagent, qu'elles produisent des mondes que nous partageons en partie, mais en partie seulement. Là, évidemment, une façon institutionnelle d'essayer de mettre ça en pratique serait d'accentuer les formes d'inaliénabilité du vivant. On l'a fait pour les humains dans la législation. Bien qu'il y ait pas mal d'empiètement là-dessus, mais l'idée de vendre, par exemple, des organismes, des organes, pardon, humains, est interdit par la loi, et même si des gens, il y a un marché noir, des choses comme ça. Donc cette idée-là, elle est admise, mais l'inaliénabilité du vivant est mise en péril par cette invention diabolique de la monnaie comme système de péréquation générale, c'est-à-dire comme système qui permet d'échanger à peu près n'importe quoi en lui donnant une valeur monétaire. Je pense par exemple à une chose que je trouve très choquante qui sont les crédits carbone, qu'on présente comme étant un grand progrès, mais qui permettent par exemple à une entreprise qui émet des gaz à effet de serre de financer une population autochtone pour qu'elle ne déforeste pas en Amazonie, je connais des exemples, pour qu'elle ne déforeste pas son territoire, ce qu'elle n'a pas envie de faire de toute façon, et ce qui lui permet d'avoir le droit d'émettre donc des gaz à effet de serre. Donc on rend équivalent un profit obtenu par cette entreprise, un dommage environnemental causé par elle, avec un attachement à un territoire que des populations locales ne souhaitent pas transformer en le déforestant. Donc c'est un cas absolument exemplaire, me semble-t-il, dans lequel l'aliénabilité du vivant pose problème. Une autre façon, c'est très utopique tout ce que je vous dis, puisque je ne suis pas sûr qu'on aille vraiment dans cette direction maintenant, mais c'est des nœuds à vos mouchoirs, si je puis dire, pour réfléchir à vos pratiques quotidiennes. Une autre façon que les populations autochtones pré-marchandes, disons, avaient de resubjectiver les non-humains, était le cloisonnement des circuits d'échange. C'est quelque chose qui, effectivement, du fait du rôle de la monnaie comme étalon général, nous a fait perdre de vue. Pendant très longtemps, on ne pouvait pas échanger certaines catégories de biens contre d'autres catégories de biens. Il y avait donc des circuits cloisonnés qui permettaient d'échanger tel type de bien contre tel type de bien, mais jamais un équivalent général comme la monnaie ne permettait une péréquation de l'ensemble de ces biens. Il y a un exemple qui a été très bien étudié par Paul et Laura Bohanan en Afrique chez les Tives, et qui raconte comment ce système s'est écroulé. C'est au Nigeria. La monnaie est arrivée et les Tives ont tout de suite perçu le danger de la monnaie britannique qui allait unifier les différents systèmes d'échange et ont donc créé un système d'échange propre à la monnaie. On ne pouvait échanger de la monnaie que contre de la monnaie. Évidemment, ça n'a pas tenu très longtemps et boum, le système s'est écroulé. Alors, il y a dans des collectifs alternatifs, il y a des exemples de cela. Je ne parle même pas des selles, mais du fait qu'on va échanger du travail, par exemple, même si ce n'est pas sous la forme d'une comptabilité fixe, mais on va échanger sous forme d'entraide du travail à certains moments, comme c'était le cas encore dans la France paysanne il y a encore une cinquantaine d'années, sans faire une comptabilité trop pointilleuse. Et de la même façon, on va se donner des productions sans qu'il y ait non plus de comptabilité pointilleuse. C'est le cas dans les ZAD, par exemple. Et ce système, donc, qui permet, sinon d'avoir des échanges cloisonnés, en tout cas, d'essayer d'éviter l'usage de la monnaie comme une sorte de grand dispositif unificateur, fonctionne dans ces collectifs de façon assez efficace. C'est le cas évidemment aussi dans les populations autochtones. J'ai parlé des Tives, ça n'a pas marché, mais quand le marché n'est pas encore présent, c'est le cas quand j'étais chez les Adjoirs, on n'échangeait que des biens de même nature. Et ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que par l'intermédiaire de ces échanges, on renforçait des liens personnels entre personnes, l'objectif n'étant pas de faire un profit dans la translation d'une marchandise d'une personne à une autre, mais de renforcer un lien entre deux personnes. ce système que j'ai vu fonctionner, il a disparu maintenant avec l'introduction de la monnaie nationale, enfin qui n'est pas la monnaie nationale, parce que l'Équateur est dollarisé maintenant. Et la nécessité de produire des biens pour le marché de façon à obtenir des revenus pour pouvoir se payer des choses qui sont devenues nécessaires à la vie, comme des moteurs hors-bord pour propulser des pirogues, pour emmener les enfants à l'école, et des choses comme ça. Une autre façon de resubjectiver les autres cumins, que je trouve très intéressante et qui prend pas mal d'ampleur en ce moment un peu partout autour de la planète, c'est la possibilité de donner une personnalité juridique à des milieux de vie. Et j'insiste sur le fait que ce soit des milieux de vie et pas la nature en général. Comme vous le savez sans doute, l'Équateur d'abord en 2008 et la Bolivie ensuite l'année suivante ont inscrit les droits de la nature dans leur constitution. Mais ça s'est fait de telle façon que les procédures pour défendre ces droits de la nature sont assez compliquées et demandent en particulier l'intervention de personnes qui viennent se présenter comme étant lésées dans l'exercice des droits de la nature, ce qui est un peu paradoxal puisque ça réanthropocentrise en quelque sorte cette idée de droit de la nature, alors que la personnalité juridique des milieux de vie, l'exemple le plus connu, le plus ancien, c'est celui du fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande, est complètement différent puisque c'est le bassin versant en tant que tel et les populations qui l'occupent, qui sont pour l'essentiel des populations maoris, qui va devenir propriétaire de lui-même et donc d'une certaine façon accepter et tolérer sur son territoire les humains qui composent ce milieu de vie. Et ça vient inverser complètement le sens de l'appropriation. L'appropriation traditionnellement est telle qu'elle a été formatrice aussi du capitalisme, ce capitalisme marchand en tout cas, sous la forme de l'appropriation des communs par des individus ou par des collectivités au fil des siècles, qui a commencé en Europe dès la fin du Moyen-Âge, qui s'est accéléré ensuite avec le mouvement des enclosures. Ce mouvement a eu comme caractéristique de donner de mettre en avant la puissance d'agir des humains, de certains humains, des propriétaires, des seigneurs, pour capter à leur profit des biens communs, des terres, des forêts, des pâtures, et encore actuellement de l'eau, par exemple, avec les bassines de Sainte-Soline ou d'autres, de façon à soustraire, en quelque sorte, à la collectivité des ressources utilisées en commun. Et le donner à un milieu de vie une personnalité juridique inverse ce dispositif en ce sens qu'il permet au milieu de vie en quelque sorte de rendre plus subalterne la position des humains, puisqu'ils deviennent dépendants du milieu de vie qu'ils occupent. D'une certaine façon, c'est remplacer l'appropriation par l'appartenance. Et ce qui est intéressant, ça s'est transcrit dans les termes juridiques en Nouvelle-Zélande. Ça suppose que le milieu de vie soit représenté, ce qui est le cas en Nouvelle-Zélande, par un organisme qui est composé de représentants des Maoris, de représentants de la couronne. Plusieurs exemples existent ailleurs. Je pense en particulier à une rivière au Québec, au Rio Atrato en Colombie, y compris en Europe, le Mar Menor, qui est une lagune près de Murcie aussi, à qui cette personnalité, on lui a conféré cette personnalité juridique. Et donc, au-delà même de l'effet de protection de l'environnement que ce dispositif présente, je pense que c'est un dispositif intéressant de resubjectivation des non-humains, au sens de qu'évoquait tout à l'heure Vinciane, de leur redonner une puissance d'agir dans un contexte politique et juridique où ils en étaient auparavant complètement dépourvus. Il y a des débats en France même. Il y a eu une initiative lancée par Camille de Toledo sur le Parlement de Loire, auquel notre ami Bruno Latour avait participé. On en parle pour la Seine aussi, on en parle pour le Rhône. Il y a différents mouvements de ce type-là. Pour le Rhône, c'est intéressant, par exemple, parce que c'est un bassin versant transnational. Et donc, si on arrive à faire prévaloir le droit d'un milieu de vie transnational sur le droit des humains, c'est pas tant sur le droit des humains, mais en tout cas à faire prévaloir sa position de sujet juridique. C'est une personne morale, hein, c'est pas une personne au sens d'un être qui est capable de se représenter soi-même et de se représenter sa position dans le monde, ce que beaucoup d'animaux sont capables de faire aussi. Mais ce sujet juridique devient l'instrument qui peut, au fond, donner à un territoire la capacité de s'exprimer par lui-même contre les intérêts de ceux qui voudraient attenter, au fond, à son conatus, à sa capacité à se perpétuer dans son être. Une autre façon d'aller à l'encontre des effets du naturalisme, indépendamment de la resubjectivation des autres qu'humains, c'est la désubjectivation des humains. Parce qu'une des caractéristiques, on l'a dit tout à l'heure, du naturalisme, c'est l'exceptionnalité humaine. Et cette exceptionnalité humaine a engendré l'individualisme moderne, ce qui ne veut pas dire que l'individualisme n'existe pas ailleurs, mais pas comme une idéologie, pas comme un pivot sur lequel asseoir, au fond, l'ensemble des institutions. Louis Dumont l'a bien montré lorsqu'il disait que l'individualisme, il définissait l'individualisme à partir de Max Weber d'ailleurs, comme l'individu comme sujet normatif des institutions. C'est quelque chose d'assez rare dans l'histoire de l'humanité aussi. Et l'individualisme, c'est-à-dire le fait d'appuyer l'idée que l'on se fait des institutions sociales sur l'existence de cet atome qu'est l'individu humain, est quelque chose aussi de très nouveau, qui est en partie appuyé sur ce que le philosophe écossais, non canadien en fait, Macpherson, a appelé l'individualisme possessif, qui est cette théorie de la philosophie politique qui a été développé par Hobbes, par Locke, en général dans la philosophie politique anglaise, et qui est devenue la philosophie politique implicite du libéralisme, et qui est fondée sur l'idée que les humains se possèdent eux-mêmes, étant propriétaires d'eux-mêmes, ils peuvent entrer dans des transactions sous la forme marchande, dans laquelle en particulier ils peuvent vendre, puisqu'ils sont propriétaires d'eux-mêmes, leur énergie, donc leur force de travail, et les institutions politiques, démocratiques, sont les institutions qui sont le mieux adaptées pour faciliter ces échanges entre ces petits propriétaires entrant dans des transactions sur un marché libre et concurrentiel. C'est au fond, encore une fois, l'idéologie générale de la philosophie politique qui gouverne nos institutions encore à présent, avec évidemment ces perversions que sont le libertarisme, par exemple, c'est-à-dire une inflation délirante du rôle de l'individu, dans lequel l'État ne joue même plus ce rôle de garant des interactions entre les individus humains comme petits propriétaires de biens et d'eux-mêmes entrant dans des transactions réciproques. Alors comment faire pour aller à l'encontre de ce mouvement de l'individualisme? Des choses dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, dont tu as parlé Vinciane aussi, c'est multiplier les attachements, c'est-à-dire nous ne sommes pas seuls. C'est l'individualisme est fondé sur cette idée de l'atome. C'est une collection d'individus qui rentrent dans des rapports dyadiques les uns avec les autres. Mais en fait, nous ne sommes pas seuls. À l'intérieur même de nous-mêmes, tu l'as rappelé, Vinciane, nous sommes composés de myriades d'êtres qui viennent en partie infléchir nos capacités. C'est l'un des résultats des travaux des biologistes sur les colonies microbiennes qui nous habitent. Mais nous ne sommes pas seuls, surtout parce que nous vivons attachés à des multiplicités d'êtres humains et autres qu'humains au quotidien. Et en prendre conscience est quelque chose de tout à fait fondamental. Donc multiplier les attachements et les dépendances est une chose. Au lieu de rechercher l'indépendance à tout prix, je pense qu'il faut rechercher la dépendance à tout prix, parce que la dépendance, elle suppose l'attachement et l'entraide, qui sont des façons de lutter contre ce délire de l'individualité autonome et responsable. Une autre façon de multiplier ces attachements, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé sur le terrain et qui, avec la division du travail technique et industriel, a disparu, c'est la polyvalence. Elle a disparu, mais pas complètement. Moi, j'ai connu les campagnes pas très loin d'ici. J'ai une maison de famille dans le Lot. J'ai connu, dans les années 70 encore, des communautés paysannes dans lesquelles non seulement chaque maisonnée était capable de faire l'ensemble des tâches liées à la production agricole, mais aussi à l'entretien des bâtiments, des machines, du terroir, et dans lesquelles, à l'intérieur de la communauté, de la collectivité, de la commune, des gens venaient s'entraider pour se donner coup de main en fonction des compétences de chacun. Donc c'est un univers qui a disparu là où je l'ai connu maintenant, avec la déprise agricole, mais qui a existé encore très longtemps. Et ce qui m'avait frappé, encore une fois, pour prendre un exemple ethnographique chez les Achuars, c'est la polyvalence, c'est-à-dire que chaque homme, chaque femme est capable de mener à bien, avec des modulations, bien sûr, dans les compétences, toutes les tâches qui sont attendues de chacun des sexes dans la division sexuelle du travail. Et cela va jusqu'au point que dans les tâches collectives, et ça c'est très impressionnant, mais on trouvait ça aussi dans les communautés paysannes, le travail, pour des tâches complexes, je ne parle pas de travaux d'abatis ou de choses comme ça, mais par exemple la construction d'une maison ou d'un grand barrage sur une rivière pour la pêche à la livrée, eh bien, les gens se répartissent les tâches sans qu'à aucun moment quiconque ait donné une instruction ou qu'il y ait même eu un échange quant à ce que chacun allait faire. Il suffisait d'observer ce que faisaient les autres pour que, comme dans un système bien emboîté, chacun se lance dans une tâche qui était complémentaire de celle des autres. Donc ça, c'est fondé sur l'habitude du travail ensemble, bien sûr. Mais c'est aussi une dépendance consentie fondée sur la polyvalence, puisque tout le monde était capable de faire l'une ou l'autre des tâches attendues. Alors évidemment, la division technique du travail fait que la polyvalence n'est pas toujours possible, bien sûr. Je suis incapable de piloter un sous-marin ou une navette spatiale. Mais pour la plupart d'entre nous, les tâches que nous accomplissons sont des tâches qui ne demandent parfois pas un tel degré de compétence qu'elles ne puissent pas être partagées ou accomplies en commun. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi frappant dans les collectifs alternatifs. Je pense à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où j'ai eu l'occasion d'aller à quelques reprises, et où ce genre de polyvalence, bien sûr, il y a quelques spécialisations, il y a des filières, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont plutôt cultiver des céréales, d'autres élever des ovins, d'autres élever des bovins, d'autres être des bûcherons, et il y a un atelier de charpenterie, etc. Mais il n'y a pas de division absolue du travail et on peut passer sans trop de difficultés de l'un à l'autre. Autrement dit, dans un certain contexte, la polyvalence est encore possible. Donc, s'il y a un message d'espoir, au fond, c'est que les marginaux, c'est-à-dire les populations autochtones un peu partout autour du monde, ou les territoires alternatifs qui résistent à la dévastation capitaliste en Europe nous montrent que des formes de résistance sont possibles, des formes d'adaptation, des manières de vivre autrement que selon les critères du naturalisme. Et je pense que les marginaux vont sortir des lisières progressivement pour revenir au centre et nous fournir des stimulations intellectuelles, politiques et affectives pour essayer de stopper la course à l'abîme, tout simplement. Voilà, c'est un message de... j'essaye de me rassurer en vous rassurant. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire.